Ce mois-ci, dans COP et Radio, on vous propose une émission consacrée à la violence éducative ordinaire et à la semaine d'action autour de la non-violence éducative ordinaire organisée par le collectif Parentalité de Millau. C'était un lien avec de nombreux partenaires et ça se passe du mardi 2 avril et jusqu'au 6 avril dans plusieurs lieux à Millau et dans la vallée du Tarn. Pour cette émission, on était en direct depuis la caravane de Radio Larzac installée sur le marché de Millau Place Foch avec nos invités Nicolas Bestard et Aurélie Hucporti, tous les deux membres du collectif Parentalité de Millau. On revient ensemble sur la notion de violence éducative, sur les pistes d'action proposées pour la combattre et sur le programme de la semaine de la non-violence éducative ordinaire. Bonjour à toutes, à tous. Nous sommes aujourd'hui en direct depuis la place Foch sur le marché de Millau dans notre caravane avec Nico à la technique. Salut Nico.
Salut Sophia.
Alors tu l'as descendue hier, cette caravane, elle était au repos?
Ouais, elle s'est reposée depuis les résistants. D'ailleurs on l'a ouvert, elle est encore pleine de paille. Il y avait les bottes de paille qui nous protégeaient du vent là-haut en août. Il y a la poussière du Cos, c'est rigolo.
Mais ça rappelle des souvenirs.
Dans son jus.
Et il y a aussi du vent aujourd'hui, donc heureusement qu'on l'a descendu quand même. Eh bien, on est ici et dans cette caravane à l'occasion de la semaine de la non-violence éducative ordinaire qui commence le 2 avril, mardi de la semaine prochaine, et propose jusqu'au 6 avril des actions, des temps de rencontres, de sensibilisation, des conférences, des ateliers autour de la non-violence éducative ordinaire. Donc aujourd'hui, on vous présente dans cette émission le programme de cette semaine, mais nous revenons aussi sur la notion de violence et non-violence éducative avec nos invités Nicolas Bestard de l'association Envie en Jeu. Salut Nico.
Et bonjour.
Et Aurélie Hucporti, membre du collectif Parentalité de Millau, formée aux compétences psychosociales et aux violences éducatives ordinaires. Salut Aurélie. Et j'ai oublié de te dire, mais toi aussi, du coup, tu es membre du collectif Parentalité de Millau. Qui est l'organisateur de cette semaine de la non-violence éducative ordinaire. On va commencer donc par une introduction sur le sujet de la non-violence éducative ordinaire et on reviendra en deuxième partie sur le programme de la semaine. Voilà, donc c'est parti. Alors, comme je disais, le collectif Parentalité de Millau et ses partenaires proposent une semaine d'action autour de la non-violence éducative ordinaire. Nous sommes déjà revenus dans d'autres émissions sur la définition de violence éducative ordinaire, mais j'aimerais quand même citer la définition proposée par le collectif. Alors je vais la lire. La notion de violence éducative regroupe un ensemble d'actes, de paroles, de comportements du parent ou de l'adulte en situation éducative susceptible d'impacter le développement de l'enfant. Il existe des violences éducatives physiques et d'autres moins visibles, exceptionnelles ou ordinaires, démonstratives ou discrètes. Le plus souvent, elles expriment un état d'impuissance dans la relation éducative, une sidération occasionnelle, une montée émotionnelle des adultes, mais elles peuvent aussi correspondre à des choix éducatifs conscients ou inconscients. Alors, dans cette définition, vous parlez d'état d'impuissance dans la relation éducative. Qu'est-ce que cela signifie ?
Alors, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'est pas impuissant dans la relation. On est responsable d'une relation. Par contre, on peut ressentir de l'impuissance face à un comportement de nos enfants.
Ok. Et donc, quelles sont pour toi les conséquences de cette impuissance dans la relation ou de cette violence qu'on a vue peut être exceptionnelle ou peut correspondre à des choix conscients ou inconscients?
Alors, oui, Aurélie dit qu'on n'est pas impuissant dans la relation, mais face à des comportements, c'est-à-dire à des moments, effectivement, ce qui est vécu là, tout de suite, fait que je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas comment faire. Je suis éventuellement agacé, hors de moi. Je peux être sidéré parce que je n'en sais rien. Moi, mon enfant se roule par terre au supermarché ou pique une colère...
Que j'arrive pas à gérer.
Alors que non seulement je n'arrive pas à gérer, mais parfois même que je n'arrive pas à comprendre. Qui me paraît totalement incompréhensible par rapport à ce qui a été vécu avant, en fait. Il y a un élément déclencheur que je n'ai pas identifié. Et juste, je suis incapable d'avoir une stratégie d'accompagnement, d'écoute, d'action qui soit adaptée, en fait, et qui soit soutenante. Et ce qui fait que bah, j'essaye des choses. L'enfant ne change pas d'attitude, peut-être. Il reste dans sa boucle. Et moi, bah, à un moment donné, ça peut venir m'activer. D'autant plus fort s'il y a des gens qui me regardent, si j'ai l'impression que je suis jugé. Et derrière, ça va me faire monter moi-même en tension, en stress. Et là, je peux en arriver à avoir des actes ou des paroles qui vont être des manières de poser un stop, d'avoir une limite radicale, mais qui peuvent aussi avoir des impacts. Ça tout dépend comment ils se concrétisent à ce moment-là.
Et j'aimerais rajouter que, en fait, face à ce comportement, ce qu'il décrit, c'est que, en fait, l'adulte ressent simplement du stress. Et dans des situations de stress, on a trois façons de réagir. Il y a l'attaque, le figement et la fuite. Et nous, en tant qu'adulte, face à un enfant, on va privilégier, mais inconsciemment, l'attaque. Évidemment, devant un enfant, représente un danger mineur face à un adulte. C'est pourquoi on priorise l'attaque. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en attaquant, finalement, on a l'impression de reprendre un peu le contrôle sur la situation. Parce que face à ce comportement qu'on n'arrive pas à stopper, on perd le contrôle et c'est générateur de stress.
Et là, on a l'impression que c'est efficace. Parce qu'en général, l'enfant, alors dans les cas où il ne va pas encore plus monter en tension, va s'arrêter. Et éventuellement même parfois s'arrêter net. Et donc on a l'impression que c'était efficace parce qu'on a réussi à ce que l'enfant revienne à la raison quelque part. Sauf qu'en réalité, il n'est pas revenu à la raison. En réalité, c'est pas forcément efficace, si ce n'est en termes de résultats immédiats. Mais par contre, l'enfant, lui, va se figer. C'est-à-dire que le cerveau va se déconnecter et va être en situation de sidération. Mais cette sidération, si du coup elle peut mettre fin à une espèce de chaîne qui s'auto-alimente, par contre, en termes de confiance dans la relation, en termes de confiance envers l'adulte, en termes de sentiment de sécurité et en termes, on va dire aussi, d'accompagnement pour trouver des stratégies qui seraient différentes, là, ça pose question.
En effet, tu parles de chaîne et à ce propos, on peut citer Muriel Salmona, qui est psychiatre spécialisée en psychotraumatologie, qui a beaucoup travaillé autour de l'inceste et des violences intrafamiliales. Et elle dit à propos de la violence exercée sur les enfants, je la cite, « Petit à petit, cette violence banalisée crée le lit de très nombreuses souffrances chez l'enfant et l'adolescent. Elle apprend aux adultes qu'ils deviendront soit à être violents, soit à se soumettre à la violence. Le cycle de la violence est alors enclenché jusqu'à frapper l'humanité tout entière. » Donc en effet, il y a une notion de continuum, où, c'est-à-dire si moi j'ai subi des paroles, des actes violents en étant petit, j'ai peut-être plus de chances de les reproduire.
Oui, c'est ça. En fait, la répétition de paroles humiliantes, d'actes violents, va entraîner et nourrit la mémoire traumatique, en fait. Et plus les gens sont traumatisés, plus ils vont être dissociés, c'est-à-dire coupés d'eux-mêmes, de leurs émotions. Et tout ça, effectivement, ça nourrit le cercle de la violence, parce que quand on est coupé de soi, de ses émotions, et donc incapable de reconnaître les émotions des autres, évidemment, les comportements agressifs et violents
peuvent se reproduire.
Moi, j'ai envie de dire que cette notion de continuum, elle est fondamentale. Par contre, il n'y a pas d'automaticité. C'est pas parce que j'ai subi des violences que de manière automatique, je suis condamné à le reproduire. Et heureusement, d'ailleurs. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça favorise et ça rend plus probable cette répercussion et cette poursuite. Puisque ce que je considère être normal ou pas normal est basé sur mon expérience et quelque part, c'est faussé. Donc effectivement, il y a un facteur aggravant avec des risques supplémentaires de reproduire les violences dans le sens où je ne ressens pas forcément... Je ne suis pas vraiment choqué, je ne ressens pas forcément de difficultés particulières à observer des scènes de violence. Je peux les considérer comme banales, violentes, et donc à partir de là, je peux considérer que ça ne fait pas partie de comportements problématiques ou de stratégies problématiques. Or, pour vivre en société, à un moment donné, est-ce que la violence comme rapport banalisé de relations interpersonnelles, c'est ça qu'on a envie de vivre ? Tu parlais de continuum et de violence croisée. Oui, il y a 160 000 enfants par an victimes d'inceste, c'est-à-dire que ça concerne en France 5,4 millions de personnes. Alors certes, ce n'est pas des violences éducatives ordinaires au sens où c'est rien d'éducatif, mais en tout cas, les violences faites aux femmes, les violences interpersonnelles, l'irritabilité des gens, le fait que dès quelque chose ne va pas, j'ai tendance peut-être à entrer dans un rapport de force, une compétition de besoins et éventuellement des stratégies de violence pour soumettre l'autre. Tout ça, ce sont des facteurs qui viennent aussi de ce que l'on a vécu comme étant enfant, comme étant normal, et comme manière de régler des conflits, des différends, des désaccords. Et pour faire vite, c'est un exemple que j'aime bien citer, mais j'ai animé dans des quartiers parfois des ateliers sur le thème de la violence, où je disais des phrases et je demandais aux jeunes, aux ados de se positionner sur « c'est violent ou c'est pas violent ?». Quand je leur demandais si recevoir des claques c'était violent, ils me disaient tous « non ». D'ailleurs, après, ils disaient, moi, je me prends des mandales, des coups de ceinture, c'est normal, c'est pour mon bien. Enfin, ils reproduisaient aussi un peu toutes ces phrases, un peu des croyances toutes faites. Par contre, c'était juste après que Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, avait dit qu'il n'y a rien à secouer de ce que pensait Zidane. Par contre, dire ça, pour eux, c'était tous très violent. Donc, ils étaient tous mis du côté, c'est violent, parce qu'on ne touche pas à Zidane. Par contre, se prendre des coups de ceinturon, c'est normal, en fait.
Oui, en effet, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que ces violences participent à une espèce de fabrication, des reproductions aussi des personnes dominantes et des personnes dominées dans la société. Et ça, c'est quelque chose qui dit aussi à Dorothée Ducy, qui a écrit des livres sur l'inceste et sur les violences intrafamiliales. Ceci dit, je pense qu'il est important, comme tu disais, de différencier les violences éducatives ordinaires et les violences intrafamiliales. Il y a un champ très différent, je pense, et qui est encadré aussi de manière différente dans la loi.
Oui, pour moi, les violences éducatives ordinaires, ce sont vraiment les choses que l'on fait au quotidien, simplement parce que des fois, on ne sait pas faire autrement, ou simplement, on ne s'en rend pas compte. Si on parle d'inceste ou de violences sexuelles, là, on est dans des actes criminels, en fait, de pédocriminalité. Là, pour moi, on est vraiment sur des choses qui nous concernent tous et toutes, en fait, que l'on soit parents, grands-parents, oncle, tante, que l'on était, enfin, on a tous été enfants. Et donc on contacte avec ça aussi quand on était plus jeune. Mais c'est aussi le cas quand on est un professionnel de l'accompagnement, de l'éducation. C'est comment je suis en relation avec des jeunes, des enfants, éventuellement individuellement ou en groupe, sans reproduire ces mécanismes qui vont avoir des impacts sur l'estime de soi, la confiance, et plutôt être une personne ressource, avoir des pratiques qui vont plutôt permettre aux enfants, par imitation, par mimétisme, par, pourquoi pas, rencontre avec d'autres manières de faire que ce qu'ils connaissent à la maison ou à l'école, pourquoi pas, de se dire, d'autres relations sont possibles, en fait. Moi, c'est plutôt là-dessus, en fait, que j'ai envie d'axer, c'est-à-dire, les violences éducatives ordinaires sont des choses qui impactent la manière normale d'être en relation à soi et aux autres.
J'aimerais quand même citer quelques exemples, parce que, effectivement, on parle pas de maltraitance, ni de déviance, mais on parle de, par exemple, de coups, de fessées, de gifles, en ce qui concerne les violences verbales et psychologiques. On parle d'humiliation, de moquerie, de négligence, de chantage, de menaces, tous ces genres de choses que chacun d'entre nous a déjà utilisé.
Oui, Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose ?
Pour un enfant, l'adulte est une personne qui est aimée, alors si c'est les parents de manière inconditionnelle, et la parole d'un adulte pour un enfant, surtout un enfant jeune, alors ça peut changer au bout de vers 8-9 ans, justement, quand il comprend l'enfant que des fois on ne dit pas toujours la vérité, ou que ce que l'on dit n'est pas toujours très connecté à la réalité de ce que l'on pense ou de nos pratiques. Mais en tout cas, un enfant, il croit de manière inconditionnelle la parole d'un adulte. L'adulte, il est surpuissant, il est vu comme tel. Et donc, à un moment donné, toutes les paroles qui vont être vécues comme blessantes, humiliantes, et toutes aussi les paroles du style « t'y arriveras jamais, c'est pas pour toi, t'es maladroit, de toute façon, tu ne comprendras jamais rien », ce sont des choses qui vont vraiment profondément impacter l'estime de soi de l'enfant. C'est-à-dire que si un adulte lui dit qu'il n'est pas compétent, il aura tendance à le croire, et en fait, à un moment donné, il perdra même l'envie d'essayer. Et comme on a en fait l'apprentissage fait par des essais-erreurs, avec du soutien sur les erreurs et avec l'autorisation de se tromper, parce que c'est de nos expériences que l'on apprend, et avec du soutien de l'adulte pour comprendre pourquoi on a échoué, avec le droit de réessayer, si derrière la stratégie éducative, c'est la punition, c'est la moquerie, c'est aussi souligner les échecs plutôt que le chemin parcouru et l'expérimentation, bah, ça aura des impacts aussi sur la capacité de l'enfant, effectivement, d'être dans l'expérimentation, dans l'essai, dans la confiance en lui. Voilà, et il va plutôt se replier ou attendre qu'on lui dise quoi faire.
Oui, en effet, c'est intéressant de citer des exemples, et on peut dire à ce propos qu'il y a aussi un panneau à l'entrée de la caravane, donc sur le marché Place Foch à Millau, où tu as mis, Nicolas, violence éducative ordinaire, pour moi c'est, et une situation que j'ai déjà vécue. Donc il y a des post-it, il y a des stylos, vous pouvez venir écrire vos petits mots, et puis aussi bien sûr vous pouvez venir nous voir si le sujet vous interpelle et que vous passez près de la caravane, n'hésitez pas à intervenir. Pour continuer cette première partie, donc j'ai envie de vous demander, vous qui êtes, vous côtoyez dans vos milieux professionnels des parents, des enseignants et le milieu de la parentalité, est-ce que cette question, ces questions liées à la non-violence éducative ordinaire, prennent plus d'ampleur, il y a plus de sensibilisation liée peut-être aussi à une libération de la parole, encore une fois plutôt liée aux violences intrafamiliales qu'on a vues ces derniers temps, mais est-ce que ça a eu un impact aussi par rapport aux violences éducatives ordinaires?
Moi, j'ai commencé à faire des interventions sur la question des violences éducatives ordinaires il y a plus de 15 ans maintenant, à l'occasion du 30 avril, hein, qui était la journée pour l'interdiction des châtiments corporels, c'est-à-dire que c'était bien avant 2019 et la loi d'interdiction des châtiments corporels. Et aujourd'hui, c'est la quatrième année que nous, le collectif propose cette semaine. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit en termes... Enfin, c'est devenu un sujet social, en fait. Un sujet politique, avec aujourd'hui, je le salue, des actrices, des acteurs institutionnels, associatifs, des parents, tout un tas... De personnes, de professionnels qui s'investissent autour de ces questions-là, pour les comprendre, avec aussi le réseau Parents d'Aveyron qui réfléchit là-dessus. C'est-à-dire, il y a vraiment une démarche aujourd'hui, y compris dans les formations initiales des AFEM, les formations initiales des EJE, enfin pardon, éducateurs, éducatrices jeunes enfants, enfin, dans les formations initiales, ces questions aujourd'hui sont posées. Ça n'était pas nécessairement avant. Donc oui, il y a des choses qui avancent. Là, cette semaine, elle a été pensée à Millau. Elle a également été menée les années passées à Saint-Beauzélie, à Saint-Afrique. Là, elle est en partenariat avec le collectif Parentalité de la Vallée du Tarn. Donc c'est aussi tout un tas d'acteurs de la Vallée du Tarn, les bibliothèques, les crèches, les pouvoirs publics, etc., qui se sont investis. Le Somme aussi, le Somme handball sur le baby. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est une prise de conscience. Et simplement pour finir... Évidemment, il y a du travail, c'est-à-dire qu'à l'échelle du grand public, ça reste un sujet très sensible, car beaucoup de gens se sentent encore attaqués sur ce qu'ils sont, et non pas sur des actes, des comportements, et ils se sentent jugés. Mais nous, notre travail, c'est aussi le thème de la semaine, c'est de déculpabiliser, en fait. C'est que toutes et tous, nous sommes dans ces questionnements-là, dans ces pratiques-là. Des fois, on est démunis, on l'a dit. Mais pour finir, moi, je suis quand même sensible au fait... que, par exemple, là, je vais dire ce qui nous est arrivé dernièrement, c'est la commune de Villiers-le-Bel, 30 000 habitants, vient de nous contacter pour savoir si on pouvait mettre en place un programme de formation pour l'ensemble des personnels de la commune, avec également des ateliers de sensibilisation, de prévention, des formations. Ce que je veux dire, c'est que ce thème, aujourd'hui, il est plus qu'émergent. Il devient un sujet. Et donc, il y a des gens qui souhaitent s'en emparer.
Et pour toi, Aurélie, tu constates la même chose dans le milieu que tu côtoies avec des enseignants, des parents ?
Oui, parce que ben, depuis que je suis parent d'élève, je fais le lien à l'école Marguerite-Marie sur Millau, le lien entre l'école et le collectif parentalité. Donc il y a un intérêt, oui, pour ce sujet.
Et donc j'aimerais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la chaîne ou continuum de violence. Alors je sais que c'est une vaste question, mais quelles sont les solutions, les pistes que vous proposez pour casser cette chaîne. Alors, en préparant cette émission, Nicolas, tu m'as parlé de Margaret Mead, qui est anthropologue et qui a fait des recherches sur les sociétés où on pratique des jeux de coopération, par exemple. Et c'est dans ces sociétés-là où il y a moins de violence, finalement, sur les enfants. Et c'est des sociétés plus pacifiques.
Bah, en tout cas, Margaret Mead, c'était une anthropologue des années 50 et qui travaillait avec toute une équipe, hein, évidemment, une équipe internationale, sur les peuples papous, inuits, des peuples en fait menacés, mais aussi des peuples anciens. Et ce qu'elle a observé, effectivement, c'est que les enfants jouaient spontanément des jeux de coopération et que c'était des sociétés davantage coopératives. Alors, il y avait aussi un système de nécessité. C'était des peuples contraints avec des conditions de vie relativement difficiles. Et donc, la compétition est totalement inefficace dans ce cadre-là. Et quand même, ça générait des rapports à soi, aux autres, à l'environnement, à la planète et, de manière générale, à la conception de ce que c'est qu'une société plus pacifique. Parce que l'adage, plutôt, si tu veux la paix, prépare la guerre, est une aberration et une connerie. Et je vais le dire comme ça. Aujourd'hui, quand on nous parle de réarmer la société pour préparer la paix, c'est un embrigadement intellectuel qui, en rien, évitera en fait que des conceptions de rapports de force et de solutions violentes pour assurer la paix sociale, ou la paix tout court, enfin, c'est juste aberrant en fait. On apprend à coopérer. On apprend à avoir une intention claire qui vise à être en lien avec l'autre et pas contre l'autre. On apprend à se dire que le conflit, effectivement, ça fait partie de la vie et que le fuir, se soumettre ou dominer l'autre, c'est pas forcément l'alpha et l'oméga du progrès dans la vie. Et ça rend pas forcément heureux.
Et ça me fait penser aussi au fait qu'avec le changement climatique, le dérèglement climatique, les conditions de vie vont devenir plus difficiles et que du coup, justement, avec cette rhétorique, on est poussé à davantage lutter l'un contre l'autre pour des ressources comme l'eau ou comme le vivant, tout simplement. Alors que, justement, coopérer permettrait de mieux vivre la relation aussi au vivant. Et c'est d'ailleurs quelque chose dont on va reparler, je pense, dans la deuxième partie, parce que ça va revenir dans le film que vous proposez, L'Odyssée de l'Empathie. Voilà, tu voulais ajouter quelque chose, Aurélie, par rapport aux pistes, aux solutions que tu as expérimentées peut-être déjà ?
Oh ben, on va en parler après, mais ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'une relation adulte-enfant plus empathique, avec moins de violence, eh bien, ça va. Tu peux m'aider.
Oui. Ce que montrent les neurosciences, avant on le savait, je veux dire, on le sait depuis Freinet, depuis Montessori, on le sait sans doute depuis avant, mais c'était simplement pas rédigé, écrit. C'est qu'effectivement, des relations aux enfants qui sont débarrassées de cette idée que l'enfant est un pervers et qu'il faut le formater, qu'il faut le contraindre, qu'il faut lui apprendre la frustration, ce que la société sait très bien faire toute seule d'ailleurs, bah, en fait, l'accompagner plutôt dans son développement harmonieux, dans sa capacité, hein, ce qu'on appelle les compétences psychosociales, mais à être en paix avec soi, en lien avec soi, en lien avec les autres, à exprimer ce qui est acceptable, inacceptable, agréable, désagréable, désirable, à dire, à accepter son non, son refus, tout ça, ce sont des comportements qui vont ensuite définir des citoyens capables de s'associer, capables de coexister sans se renier et sans écraser les autres. Donc la relation de l'adulte en harmonie avec son enfant, c'est une condition en fait d'une société plus harmonieuse. Et il n'y a pas de baguette magique, par contre, je voudrais qu'on fasse attention. On n'est pas en train de dire qu'il suffit d'apprendre des trucs, des astuces. Non, non, c'est un processus, l'éducation, ça prend des années. Et il n'y a pas de baguette magique, c'est juste une intention. Est-ce que, quand je vis quelque chose, quand clairement je suis agacé, quand je suis perdu, je vais immédiatement recourir à des logiques autoritaires, ou est-ce qu'à un moment donné, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se joue dans la relation et pour chacune des personnes, parce qu'en fait, les besoins sont légitimes. Les stratégies, peut-être pas. Et donc, si à un moment donné, je pose un acte, y compris de cadrage, et c'est OK, parce que la parentalité bienveillante, c'est pas la permissivité, qui est une autre forme de violence. Je sais qu'à un moment donné, si je mets un acte, je pose un acte ou une parole de cadrage, y compris qui ne laisse pas l'autre libre de son choix, par contre, j'aurai l'intention d'y revenir plus tard, quand les émotions seront redescendues, pour recréer du lien et redonner de la clarté sur pourquoi j'ai fait ça. qu'est-ce que ça permet, quelle était mon intention, pour pas que ça apparaisse comme un acte arbitraire, de violence pure, déconnecté.
D'autorité.
Oui, c'est ça. L'autorité, c'est ni la permissivité, ni l'autoritarisme. C'est assurer un cadre de sécurité, de négocier ce qui est possible et de ne pas négocier ce qui ne l'est pas, mais avec clarté.
Oui, en fait, pour résumer, plus on va se montrer empathique envers l'enfant, plus lui-même, il va pouvoir développer ses compétences à l'âge adulte, à l'âge enfant, en étant enfant et à l'âge adulte. Et puis, nous, ce qu'on cherche, c'est pas pointer du doigt, dénoncer, mais poser les faits simplement et informer et proposer des alternatives, bon, j'aime pas trop ce mot, mais qui permettent de sortir de nos automatismes, en fait. Et puis, bah, si on n'y arrive pas, et bah, y a toujours la possibilité de recréer le lien, reparler de ce qui s'est passé et nourrir la relation.
Et ça, c'est ce qu'essaye de faire le collectif, en tout cas tout au long de l'année. C'est-à-dire que là, on est bien sur une semaine qui met en avant cette question de violence éducative. Mais toute l'année, on accompagne et on soutient les parents dans leurs expérimentations, dans leurs questionnements, dans leurs pratiques. Alors, je ne vais pas vous donner, moi, une clé, parce qu'il y a 1000 pratiques alternatives à la violence, en fait. La question, pour moi, qui est centrale avec cette semaine, c'est plutôt de dire, est-ce que mon intention dans la vie, c'est de développer une relation apaisée à moi-même, aux enfants et finalement au monde? Et si oui, alors, ça ouvre la perspective du comment. Ou alors, est-ce que je considère que pour moi, c'est plus agréable d'être dans une relation de confrontation permanente et de rapport de force?
En effet, ça résume bien. Merci. Je pense qu'on peut faire une pause et reprendre dans la deuxième partie pour parler plus dans le détail du thème qu'on a évoqué pour cette semaine de la non-violence éducative ordinaire. Nico, peut-être tu as des choses à ajouter ?
Là, comme ça, non. J'étais plus sur le réglage des niveaux sonores, des trucs comme ça. J'étais plus sur la forme, c'est mon boulot, hein, que sur le fond. Désolé.
Et justement, t'as choisi une musique, par contre.
Oui, j'avais plusieurs pistes. J'avais un truc, nique la violence, des cargoles. Je me suis dit, bon, ça va aller fort sur le marché. On va avoir les voisins des stands qui vont venir. Après, j'avais Monde violent aussi, de Ludwig Monde 88, qui était bien punk aussi. Voilà, mais c'est des pistes, hein, vous pouvez les écouter à la maison. Et je vais mettre un truc plus cool, c'est violent quand même, le nom du morceau, et c'est Massilia Sound System. Un peu de chaleur du côté de Marseille. Où est-ce que ton miraga mon fin, car est-ce que pas jali qu'il y a une chara perte, encore une co, sas? Popa jali, i-a-a, popa jali, viens tchatcher, oui, popa jali, i-a-a, popa jali, viens donner un nouveau lyrisme, plein d'originalité, pour toi raga. Mais quand c'est méchant, quand c'est violent Faut pas j'aller dans la danse, le dis tranquillement. Je tchatche pour les Français, je tchatche pour les Occitans, les Africains, les Antillais et ceux du Moyen-Orient. Je suis pas chrétien, je suis pas athée, je ne suis pas musulman. Mes idées, je ne vais pas les chercher dans la Bible ou le Coran. J'ai pas besoin de croix d'étoiles, pas besoin de croissants. J'ai ma propre liturgie et mes propres sacrements. À l'office du repas d'or, je suis un MC permanent. Le paradis, c'est pour les morts et l'enfer, c'est pour les vivants. C'est pourquoi l'on m'est condamné à souffrir très longtemps. Mais quand c'est méchant, quand c'est violent. C'est violent, faut pas j'aller dans la danse, change de comportement. Mais pour revenir, tchara, un troisième lyrique, c'est nous citant. Vous voyez, béré dans sa boule, l'ego d'arrière, boule, l'ego d'avant. Arrête, faut pas j'aller, Kevin, dès la danse, plan, plan, planté par la française, et par la patois, t'es par la découpe, quand même, des violents. Aïe, scout, ami, hey, qu'est-ce que vous pas une couillon? Tu parles à mes sapiens, tu parles à mes raisons. Mais quand c'est méchant, quand c'est violent, faut pas j'aller dans la danse, reviens en énumérant. Les actes de la vie qui lui paraissent méchants ou bien violents, tout dépend selon les événements. À Marseille, ces adjectifs sont employés tout le temps pour désigner quelque chose de fort ou d'important. Boire un perroquet parlant à l'idéal, c'est méchant. Manger la yoli le vendredi en famille, c'est violent. Regarder au fond des yeux de son enfant, c'est méchant. Embrasser ton homme sans maman en lacérant, c'est violent. Mais quand c'est méchant, quand c'est violent. Faut pas j'aller dans la place, reviens le micro en avant. Quand c'est méchant, quand c'est violent. Faut pas j'aller dans la danse, reviens en continue à monter au sommet de mon sécure en courant. C'est méchant, péché, agnon, on est pas taclé et des sarans, c'est violent. Écoutez chanter Carlotti, le troubadour, c'est méchant. Écoutez parler que de secret, Félix Castan, c'est violent. Parcourir les rues de Toulouse en chantant, c'est méchant, crier comme un fou, vivre le piment rigolant, c'est violent. Mais quand c'est méchant, quand c'est violent. Au plus c'est méchant, plus c'est violent, au plus c'est violent, au plus c'est méchant. Faut pas j'aller maintenant, viens te parler des gens qu'il a connu, reconnu pour leurs actes violents. À Marseille, à Toulon, Tatou et Claudio, c'est méchant. À Saint-Etienne, à Aurillac, Wally et Giacomo, c'est violent. À la Gazette, à Montauban, à Ziron, Castan, c'est méchant. À Bahia de Toulouse, les fabuleux sont violents. S'il fallait citer tout le monde, il y a
on aurait plus de sang.
Allô, pato.
Tchara, une trousse de lyrique, c'est nous citant. Pose-moi les virées, donne sa boule, l'aigle, l'arrière, boule, l'aigle, l'avant. Arrête pour pas, j'allais qu'elle vende la danse. Sur plan, 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 t'es par la facette, t'es par la patois, t'es par les coups, car un est violent. Vaille, est-ce dormi? Hey, qu'est-ce qu'il ou pas une couillon? Brutal, c'est vaille. T'es parlé à mes sapiens, ça. T'es parlé à mes raisons. Mais pour pas, j'allais, ah, pour pas, j'allais, ah, tchatché, oui, pour pas, j'allais, ah, pour pas, j'allais, t'as donné.
C'était Massilia Sound System sur les ondes de Radio Larzac. Nous sommes toujours en direct depuis la caravane sur le marché de Millau, place Foch, à l'occasion du lancement imminent de la semaine de la non-violence éducative ordinaire qui commence ce mardi 2 avril et qui dure jusqu'au 6 avril avec une série d'actions qu'on va vous détailler. Je suis toujours avec Nicolas Aurélie du collectif Parentalité de Millau. Alors justement pour commencer Aurélie, quelles sont les intentions pour cette semaine d'action et que vous avez posé avec ce collectif qui on a vu commence à créer une vraie synergie au sein du, voilà, des réseaux des parents, des enseignants et sur le territoire?
Eh bien, j'ai envie de dire que nos intentions ressortent largement à travers le titre qu'on a donné à cette édition.
Donc le titre c'est en effet « Tous et toutes concernés, tous et toutes confrontés ». Déculpabilisons pour transformer.
Oui, tout à fait. En fait, la première partie, tous concernés, confrontés, ben, c'était un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ça permet de... On voulait un titre qui soit rassembleur. Donc, on est effectivement tous concernés, même nous qui faisons partie du collectif. Voilà, seulement, on veut en prendre... on en prend conscience, on pose les faits. Et puis, dans la deuxième partie du titre, déculpabilisant pour transformer, voilà, une fois qu'on a posé les faits, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On se met en réflexion ensemble pour construire des interventions éducatives qui sortiraient des rapports de force et de la violence.
Oui, et justement, c'est une semaine comme les autres années, c'est quelque chose qui m'avait marqué aussi l'année dernière, qui s'adresse à tout le monde, même si on n'est pas parent, on peut aussi dire que toutes les actions sont gratuites, donc c'est le cas cette année aussi.
Alors les actions ne sont pas gratuites, elles sont socialisées, c'est-à-dire qu'on est soutenu par des partenaires comme le REAF, c'est-à-dire le réseau d'écoute, d'accompagnement, d'appui aux parents, la CAF. Donc en fait il y a de l'argent public qui est mis au service effectivement de l'accessibilité. Donc effectivement, ça n'a pas de coût pour les personnes
pour
qui souhaitent venir au cinéma, aux conférences, aux différentes activités.
Et justement, même si on n'est pas parents, je pense que c'est quelque chose que tu m'avais dit aussi, Nicolas, on peut toujours être concerné par le sujet, parce que déjà, il y a souvent des enfants autour de nous, même si ce ne sont pas de nos enfants. Et puis, parce que c'est des questions de société, comme on disait aussi en la première partie.
Oui, Aurélie, elle parlait de la transformation, hein, qui est le titre un peu de cette semaine. Il est impossible de transformer quoi que ce soit tant qu'on reste dans une forme de déni. Ou tant que je ne prends pas de responsabilité et que je ne me sens pas concerné. Mais en fait, les violences, qu'elles soient des violences faites sur les enfants, qu'elles soient des violences dans tous les domaines du monde, en fait, soit je regarde ailleurs, soit je regarde en face. Ça ne veut pas dire que mon rôle est d'être policier, de juger, de je ne sais pas quoi. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai une part de responsabilité parce que je vis dans un monde où il y a des enfants, que j'en côtoie, que j'étais moi-même enfant, que j'ai ma propre expérience, que j'ai ou pas des enfants d'ailleurs. Mais en tout cas, me poser la question de dans quel monde je souhaite vivre et qu'est-ce qui permettrait de vivre dans un monde plus désirable, puisque j'entends quand même beaucoup de gens qui disent « Oh là là, aujourd'hui tout est violent ». Oui, d'accord, mais alors si tout est violent et si tout le monde a peur en permanence de tout, à quel moment je peux dire que, en tout cas, les enfants, la relation éducative, elle a une place dans cette réflexion-là. Donc transformons, c'est aussi réapproprions-nous collectivement cette question comme un enjeu non pas privé, mais un enjeu de quelle place ont les enfants dans la société française aujourd'hui. C'est une place qui est particulière. Il y a d'autres sociétés où les enfants ont d'autres manières d'être considérés et d'autres manières d'être éduqués. Tout ça, c'est un enjeu, en fait. Moi, je n'ai pas de réponse sur qu'est-ce qu'il faut faire. Par contre, j'ai quelques idées sur qu'est-ce qui n'est pas efficace.
Aurélie, tu voulais revenir sur comment déculpabiliser, peut-être ?
En fait, pour moi, ce qui permet déjà de sortir de la culpabilité, c'est de s'informer. De s'informer sur les violences, de s'informer sur les besoins de l'enfant, de son développement, de ses capacités, et puis de mieux se comprendre soi-même et mieux comprendre nos enfants. Parce que, on disait, s'arrêter, vouloir avoir l'intention d'arrêter d'user de la violence, c'est déjà un super premier pas. Mais après, c'est pas toujours évident de l'appliquer. C'est parfois plus difficile, surtout quand on ne sait pas comment faire.
Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de dire on est tous confrontés et on n'est pas seul, en fait.
Voilà. Et c'est pour ça que le collectif Parentalité propose tout au long de l'année des petits-déj, des conférences, des cafés parentalité, des spectacles qui visent à informer, à offrir du soutien aux parents, voilà, avoir des temps d'échange pour se sentir moins seul.
Moi, j'ai envie aussi d'ajouter que il y a beaucoup de parents solo, il y a beaucoup aussi de couples parentaux où il y a une vision un peu parfois genrée des rôles, avec aussi une sur un enfin la femme peut être la maman peut être aussi surinvestie soit par choix, soit par contrainte. Et nous, on a aussi envie d'interroger ça, c'est-à-dire comment est-ce que on arrive à sortir d'une forme d'isolement. On a l'impression qu'il y a des choses qui devraient être faciles, qui devraient être naturelles. Or, la question de la parentalité, peut-être qu'il y a toujours eu des parents et des enfants, n'empêche que ce n'est pas une question qui est ni facile, ni allant de soi, parce qu'on est aussi surconditionné, encore une fois, par des injonctions sociales. Et donc, comment on arrive à identifier nos croyances, comment on arrive à ne pas se sentir perdu aussi, parce que on est en confronté, parce qu'il y a plein de choses qui circulent sur la parentalité. D'avis, il y a plein d'idées, il y a plein d'arguments, et c'est facilement flou. Donc, déjà, sortir de l'idée que je suis seul responsable de ce que je vis, me mettre en relation avec d'autres, échanger, discuter, peut-être me sentir des points communs dans mes questionnements, dans mes difficultés, me rendre compte que finalement, je ne suis pas un mauvais parent. Ou en tout cas, que même si quelqu'un d'autre me dit que je suis un mauvais parent, en fait, ce n'est pas si simple que ça, et ce n'est pas forcément vrai, d'ailleurs. Et donc, en fait, nos vulnérabilités, nos questions sont plutôt des forces. Là aussi, c'est une question de transformation. Parce que le point commun, en fait, il est qu'on a toutes et tous les mêmes questions.
Alors, la semaine d'action s'ouvre avec une conférence donnée par Violaine Ruffiolo à 14h le mardi 2 avril pour les professionnels de la parentalité à 14h et à 20h pour tout public au 2 ISA. Elle s'intitule « Comprendre et agir pour ne pas reproduire ». Donc, il me semble que c'est toi, Aurélie, qui avait proposé cette conférence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, tout à fait. C'est moi qui ai proposé l'intervenante, en tout cas, Violaine Ruffiolo, que je connais de par ma formation. Donc, c'est une psychopraticienne en psychothérapie intégrative. Elle est formée aux compétences psychosociales, notamment avec son stage de la grammaire des émotions, que je recommande. Et puis, elle forme aussi à l'animation de groupe, de conférences, de théâtre forum. Elle est habituée à ce format-là, en tout cas.
En tout cas, ce titre nous fait penser un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, donc oui. Agir pour ne pas reproduire justement un modèle éducatif qu'on aurait reçu en étant enfant. Donc voilà, c'est une conférence qu'elle donne à 14h pour les professionnels et à 20h pour tout le monde, le mardi 2 avril. Et ensuite, de ISA à Millau. Et ensuite, le mercredi 3, vous donnez rendez-vous au Jardin de la Mairie et à la Maison de Retraite de Rivière-sur-Tarn pour un goûter lecture et atelier d'expression. Alors, à Millau, ce sera au Jardin de la Mairie de 15h à 17h. Et pour ce qui concerne Rivière-sur-Tarn, ce sera toute la journée. Alors, atelier d'expression, ce serait quoi ?
Je rigole parce que le spécialiste, c'est Nicolas. En tout cas, de ce que j'en ai compris, c'est que c'est un outil qui nous permet de questionner nos représentations, là, sur le sujet de l'éducation. Ça nous permet de questionner ce qu'on a reçu, ce qu'on souhaite transmettre avec comme support des images, des photos diverses et variées. Et ça nous permet en fait d'enclencher la discussion. Et tu veux peut-être ajouter quelque chose ?
Bah, ce que je veux dire, c'est que la parentalité, c'est effectivement un sujet inépuisable d'expression sur nos intentions, nos désirs, nos limites, parfois le décalage entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on arrive à faire. Et aussi, il y a plein de choses qui émergent liées à notre enfance. Des fois, on se dit « je ne serai jamais comme mes parents », puis en fait, on se dit « merde, en fait, je suis comme mes parents ». Enfin, il y a plein de choses aussi qui peuvent émerger sur « ah, je comprends mieux pourquoi ils disaient ça ». Enfin, et en fait, on n'a pas tellement d'occasion dans la vie, en vrai, d'aller mettre des mots simples, voire de se questionner sur quels sont mes choix éducatifs. Qu'est-ce qui relève plutôt d'une forme de conditionnement et de reproduction ? C'est aussi le thème de la conférence, mais je reproduis quoi ? Est-ce que je reproduis par choix ou est-ce que je reproduis parce que c'est le modèle qui est le mien, soit en positif, soit en négatif ? Voilà, c'est ça. Mais plus je suis en capacité de mettre des mots à partir d'images, à partir de questions, dans un cadre où je sais qu'il n'y aura pas de jugement, où les gens derrière, ils n'arrivent pas à me convaincre de quoi que ce soit, mais juste, ils vont m'accompagner à moi-même avoir plus de clarté, en fait. Qu'est-ce que j'ai vécu ? Est-ce que c'était OK ? Est-ce que c'était pas OK ? Qu'est-ce que j'aurais envie de garder ? Qu'est-ce qui m'a parlé ? Qu'est-ce qui me questionne aujourd'hui ? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire ? Voilà, tout ça, c'est en fait plutôt des temps d'ouverture. Nous, on n'a pas derrière, encore une fois, à dire aux gens ce qu'il faut faire ou pas faire. Ça leur appartient. Par contre, on trouve que c'est beaucoup plus lié à la liberté de faire des choses qu'on a choisies, sur lesquelles on peut mettre des intentions claires.
Et ensuite, ça continue la semaine, donc le jeudi 4 avril à 20h30 au cinéma de Millau, avec un ciné-débat autour de l'Odyssée de l'Empathie, donc un film que vous avez choisi. On peut écouter la bande-annonce.
Enzo, 2 ans. Tiffaine, 5 ans. Ces enfants sont tous morts de maltraitance, comme 700 autres chaque année en France.
Je trouve que c'est tellement important dans notre société actuelle de comprendre d'où vient cette violence que j'ai dit, voilà, je travaille sur en préhistoire, sur nos ancêtres, allons voir ce qui se passait. Les Néandertaliens, les Cro-Magnons étaient des chasseurs-cueilleurs. Et on n'a pas de traces de guerre au sens massacre collectif. Les chasseurs-cueilleurs vivent sur un système relativement égalitaire qui est basé sur le partage. Chez les Sams, par exemple, il n'y a pas du tout de châtiment corporel.
La violence, elle se nourrit des inégalités. Elle se nourrit de la vision où on considère qu'il y a des catégories inférieures. Et les enfants peuvent en faire partie, les femmes peuvent en faire partie. Et plus les gens sont traumatisés, plus ils sont dissociés, plus on peut leur faire n'importe quoi, ils vont rien dire. Et tout le monde peut en profiter, soit pour exercer des violences à nouveau sur eux, soit pour leur faire faire des choses complètement folles.
Jusqu'à jeudi, sinon... Oui, arrête ! On se rappelle, Laurent, ok. Tu entends ce que je te dis ? Mais c'est dingue, ça !
Serait-il possible, en ne battant plus les enfants, de transformer aujourd'hui des hommes indifférents en personnes empathiques ?
Je pense que les études récentes, notamment sur les tout jeunes enfants, montrent ça très clairement. Si vous leur montrez des personnages qui se comportent soit violemment, soit avec gentillesse, avec les autres, même des enfants de 8 mois, quand on leur tend ces marionnettes, ils vont systématiquement sur celles qui se comportent de façon bienveillante à l'égard de l'autre, que ça correspond à ce que vous pensez. Ce qui intuitivement est votre nature, on n'est pas contrarié, on n'est pas mal à l'aise. C'est quand on est généreux, c'est quand on est bienveillant.
J'ai acquis cette profonde conviction que nous n'allons pas par miracle respecter la vie là-devant sans avoir appris à la respecter là-dedans. Nous n'allons pas par miracle respecter la nature tout autour sans avoir appris à respecter notre nature intime. Si nous continuons de faire violence à ça, tôt ou tard, cette violence se reproduit sur les autres, sur le conjoint dans le couple, sur les enfants, mais bien sûr sur la nature.
Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Quels enfants laisserons-nous à la planète ?
Voilà, Voilà, c'était donc la bande-annonce du film L'Odyssée de l'Empathie, où on entend Muriel Salmona, qu'on a déjà cité, psychiatre, Marie-Hélène Patoumatis, qui est anthropologue et qui a beaucoup travaillé sur la préhistoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le film met en avant la dimension systémique et anthropologique des violences, mais aussi le fait que cette violence peut se reproduire non seulement sur les autres, mais aussi sur le vivant. Et donc Aurélie, encore une fois, c'est toi qui avais proposé ce film. Ça t'avait interpellé, cette bande-annonce, ces extraits?
Oui, tout à fait. En fait, je ne peux pas trop vous parler du film parce que je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, j'ai été séduite et touchée et même aussi choquée, marquée par cette bande-annonce, à la fois par ce qui est dit, à la fois par les personnalités qui interviennent et puis par le message d'espoir quand même qui ressort de la bande-annonce.
Oui, Nicolas ?
Pour faire un peu le lien avec ce qu'on disait avant, la question de la déculpabilisation, elle est fondamentale. C'est-à-dire, soit on considère que les parents sont seuls responsables, et donc aussi, c'est ça qui est derrière, coupables éventuellement d'une éducation de telle ou telle manière, qui aurait des résultats X ou Y, généralement définis par la société d'ailleurs. C'est-à-dire qu'un bon citoyen, c'est un citoyen sage, hein, on va quand même le dire comme ça aujourd'hui. En fait, l'une des premières choses à faire pour déculpabiliser, c'est de sortir de l'échelle individuelle où les personnes seraient l'alpha et l'oméga, on va dire, de la vie sociale. Il y a bien des violences systémiques, il y a bien des cadres, il y a bien un substrat qui va aussi en fait, générer des relations, des visions du monde, de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est désirable, de ce qui ne l'est pas. Et ce film, c'est vrai qu'il permet de replacer les individus, les questions éducatives, dans une réflexion plus globale. On avait déjà proposé ça l'année dernière avec une conférence gesticulée, mais aujourd'hui, la première chose pour déculpabiliser et transformer, c'est bien d'avoir de la clarté sur qu'est-ce qui relève de ma responsabilité, sur quoi j'ai des leviers pour agir, qu'est-ce que moi je peux faire pour contribuer à transformer, et pour moi et pour mes proches, les relations éducatives. Mais il y a aussi des choses qui sont à une autre échelle, à un autre niveau.
Merci pour cette présentation du film donc, qui sera projeté au cinéma de Millau le jeudi 4 avril à 20h30. Et le même jour, toujours le jeudi 4, il y a un raconte-tapis parents-enfants à Millau au café associatif Le Barbouille de 10h30 à midi. Et puis ensuite, le 5 avril, il y a un spectacle de théâtre forum au théâtre La Fabrique à Millau. Vous pouvez venir dès 19h45, manger un bout tiré du sac. Et puis après,
alors 18h45 pour le repas. 19h45, c'est l'accueil du public pour qu'on puisse vraiment commencer à 20h.
En effet, merci. Et donc c'est toi et avec un vieux jeu qui vous allez l'animer, ce théâtre forum, ça s'adresse plutôt aux adultes. Comment ça va se passer?
Alors ça s'adresse aux adultes, effectivement. Alors l'idée, c'est le principe du théâtre forum, c'est un outil de mise en situation. Voilà. Là, on va faire du théâtre forum relationnel, donc c'est plutôt notre patte à nous, qui vise à dire que lorsqu'on a un conflit, lorsqu'on a un désaccord, lorsqu'on est en situation justement d'impuissance dans une relation éducative en l'occurrence, l'autre n'est pas un ennemi, puisqu'on est dans un cadre intrafamilial. On a plutôt pour intention de renouer la relation, de voir qu'est-ce qui fait blocage, de comprendre ensemble. Il y a aussi une logique d'intelligence collective à partir de ce qui est vécu et vu, d'où la partie forum où on va échanger. Et puis on va essayer des stratégies, on va essayer de faire changer la situation dans une intention qui est de l'améliorer de manière claire. Et l'améliorer, ça veut dire être plus en lien avec nos intentions qui sont de dépasser les blocages et de renouer nos relations. Donc là en fait, il y aura un petit temps de ce que nous on appelle un brise-glace, c'est-à-dire un temps pour être à l'aise avec des jeux de coopération. Ensuite on présentera une image. Un peu, donc c'est une visualisation figée d'une situation pour commencer à s'entraîner à parler. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'enjeu? Donc aussi s'entraîner collectivement à exercer un esprit critique et un regard sur quelque chose. Et ensuite, on proposera une ou deux scénettes en fonction du temps disponible que nous, on aura construite. Donc les gens pourront l'observer et à partir de là, ensemble, on essaiera de travailler à quel est l'enjeu, qu'est-ce qui se passe entre les protagonistes, quelles sont les interactions. Et puis on proposera au public, de manière volontaire, de venir remplacer l'un des personnages, justement dans cette intention d'essayer quelque chose pour aller vers du mieux.
Et oui, et donc refaire des scénettes avec le public.
C'est ça, c'est-à-dire que notre équipe, elle, va rester en place, et va partir ensuite en improvisation par rapport à ce qu'une personne venue sur scène pour remplacer le parent ou la parent, en fait, nous, on va interagir par rapport à ce qui nous semble dans nos ressentis être des choses qui vont ouvrir le lien, qui vont permettre d'aller vers le rétablissement d'un lien, ou au contraire des choses qui vont nous sembler plutôt être de l'ordre de la fermeture, voire pourquoi pas vécues par nos personnages comme étant plutôt des contraintes. Des choses qui vont les mettre en réaction, c'est-à-dire on va s'inspirer de ce que l'on sait de la vie réelle.
Donc ça se passe le vendredi 5 avril au Théâtre de la Fabrique à Millau, donc à 18h45 pour manger et puis dès 19h45 pour venir voir le spectacle. Et puis enfin la dernière journée, donc le 6 avril, il y a deux rendez-vous. Le matin de 10 à 11h, le Somme Handball, comme on disait aussi en première partie, propose un temps d'échange autour de l'exposition installée au gymnase du Puy de Calès. D'ailleurs cette exposition sera visible tout au long de la semaine sur d'autres lieux à Millau et à Aguessac aussi.
Oui, dans différents endroits de collectifs, ça sera indiqué sur le site du blog de la semaine de violence éducative ordinaire. Et pour cette année, on a aussi fait le choix d'ajouter de nouveaux panneaux qui complètent.
Et puis enfin, l'après-midi du samedi 6 avril, de 15h à 17h, à l'aire de jeu de Gourdebade, il y a un goûter lecture et photolangage. Donc un photolangage toujours autour de ces questions de la relation parent-enfant.
Oui, c'est une forme de duplication de l'action du mercredi, parce que les années passées, on s'est rendu compte que ça avait vraiment du sens d'aller voir les gens là, sur les aires de jeu, là où il y a des familles avec des enfants, et d'être en lien en fait, d'aller discuter, d'échanger, de partager une part de fouasse autour de ces réflexions-là, et que ça générait de l'intérêt, et c'est aussi des personnes qui spontanément n'ont pas forcément l'habitude, ou pas toujours en tout cas l'habitude, de venir nous voir dans nos structures, de discuter, et aller proposer des ressources et des temps de rencontre, et faire connaître finalement le collectif, ses actions, ses partenaires, c'est aussi pour moi une logique de contribuer à sortir de cet isolement en fait, et de ce sentiment de solitude, parfois d'impuissance, en disant oui, il y a bien des ressources, oui, il y a bien des gens qui s'engagent sur ces questions-là, et les personnes qui souhaitent également être accompagnées peuvent à ces occasions-là aussi commencer à avoir ce premier jalon d'échange sans engagement derrière, mais en tout cas d'identifier qui pourrait servir de ressource par la suite.
Merci beaucoup. Donc on a fait un tour d'horizon du programme. Peut-être vous voulez ajouter quelque chose sur cette semaine, sur le collectif ? On a fait le tour.
Dire quand même que cette semaine, pour la première année, elle est co-organisée à la fois par le collectif Parenté de Millau et le petit collectif de la Vallée du Tarn, qui est notre collectif partenaire, qui a été créé il y a 2 ans, et donc qui avant relayait nos actions et qui là les co-organise. Et dans cette logique justement d'extension, de diffusion, je pense que c'est vraiment à signaler.
Et puis ici, on pourrait rajouter quand même que malgré que ce soit la 4e édition, on ne cesse d'innover et de proposer des nouvelles actions à chaque fois.
En effet, donc le programme est riche et vous pouvez le retrouver sur la page Facebook du collectif Parentalité de Millau et aussi dans la presse locale, c'est sorti. Donc merci à vous et puis je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Voilà, donc c'est la fin de cette émission consacrée à la non-violence éducative ordinaire et surtout à la semaine d'action autour de la non-violence éducative ordinaire proposée par le collectif Parentalité de Millau en lien avec des partenaires. De nombreuses actions que nous avons détaillées sont prévues à Millau et aux alentours. Ça se passe du mardi 2 avril jusqu'au 6 avril. Toutes les actions sont ouvertes à tous en accès libre et sont gratuites pour le public. Comme je disais, plus d'informations et le programme complet sont à retrouver en ligne sur la page Facebook du collectif Parentalité de Millau, dans la presse locale aussi. Et merci encore une fois à nos invités, Nicolas et Aurélie, membres du collectif Parentalité.
Bah merci, je crois que je vais laisser mon rond de serviette pour l'année prochaine.
Merci et bonne journée à tous.
Oui, bonne journée et puis merci beaucoup à toi Nico, à la technique. Cette émission est rediffusée dans le créneau COP et radio du mois d'avril. Donc ce sera mardi à 14h et samedi à 14h toujours. Et ce sera aussi un podcast sur notre site radiolarzac.org. Bonne continuation sur nos ondes. C'était une émission en direct depuis la caravane de Radio Larzac sur le marché de Millau avec Nicolas Bestard et Aurélie Hucporti, tous les deux membres du collectif Parentalité de Millau. C'était à l'occasion du lancement de la semaine de la non-violence éducative ordinaire et c'est une émission diffusée dans COP et Radio à réécouter sur radiolarzac.org.